Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre Eva Rock pour un zapping du lendemain, les pieds dans l'eau, et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Saint-Valentin, aucun rapport. Et puis dans les indispensables, un jeu vidéo parfait pour la Saint-Valentin, c'est Clément Le Saffre qui l'a testé pour nous. Et puis une tendance culinaire très abordable, très gourmande, c'est quoi? C'est Charlotte Legrand qui va nous le dire. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est l'heure de l'écran de veille Bertrand, c'est J-2, c'est après-demain avant la Saint-Valentin.
Wow. Eh oui, c'est dimanche, une célébration de l'amour pour certains, une fête commerciale pour ceux qui s'y prennent à la dernière minute, n'est-ce pas Philippe? La Saint-Valentin donc. Et à cette occasion, j'aimerais ce matin faire voler en éclats le cliché tenace qui voudrait que France 3 soit une chaîne pour personnes âgées, qui diffuse uniquement des jeux télé pour seniors et des réclames pour baignoires à porte, aides auditives et conventions obsèques. Preuve que non, au lendemain de la Saint-Valentin, lundi à 23h, France 3 Centre Val-de-Loire proposera le documentaire « Le cœur au centre », 52 minutes autour de l'amour et de lieux imprégnés d'amour. Un documentaire qui risque de défriser 2-3 mises en pli, je préfère vous prévenir. Alors, pourquoi avoir choisi le centre pour parler d'amour? Réponse.
C'est dans cette région que les habitants seraient les plus épanouis sexuellement. Oui, c'est un sondage qu'il dit avec la note de 5 sur 5.
5 sur 5 ah bon sexuellement, c'est classe ça. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais c'est dans le centre que se trouve le village de Saint-Valentin, le village de l'amour.
Ah.
Mais pas seulement.
On a cherché et on s'est rendu compte que la Fistinière faisait partie du centre Val-de-Loire.
Et oui, France 3 s'intéresse à la Fistinière. Ah oui, je vous avais prévenu que ça allait sursauter du bigoudi. Ça change les chiffres et les lettres, hein, mémé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Fistinière, établissement désormais fermé, petite description.
La Fistinière, c'est une chambre d'hôte qui est devenue culte il y a 10 ans pour sa pratique d'une sexualité osée et totalement assumée.
Je m'adresse aux parents qui sont en train d'écouter cette chronique avec leurs enfants qui viennent de demander « C'est quoi la Fistinière? Qu'est-ce qu'ils font les gens là-bas » Restez vagues. Répondez-leur que c'est un lieu dans lequel se réunissaient des fans de Jackie Quartz pour faire... Voilà, ça répond à la question sans trop en dire. Les deux journalistes sont donc allés à la rencontre des fondateurs de la Fistinière qui partagent avec moi une passion. Non, calme-toi Eva, je parle des jeux de mots. Visite de l'établissement.
Je vous invite à rentrer dans la chapelle Fistine.
Et bien sûr, une vue sur le parc d'Attrape-Fillon.
Le parc d'Attrape-Fillon, j'aime beaucoup celle-ci. Alors beaucoup de fantasmes circulent autour de la Fistinière, mais les soirées là-bas sont des soirées tout ce qu'il y a de plus classique. C'est le patron lui-même qui le dit.
Il y avait parfois des soirées, on va dire, classiques. Pour nous, une soirée classique, ça signifiait juste une soirée où les gens se rencontraient pour... du fist-fucking.
Voilà, une soirée classique. Qu'est-ce que ça doit être quand c'est pas une soirée classique, vous demandez-vous? Eh bien, ce sont des soirées à thème, des soirées déguisées. Voici ma préférée.
On a créé, par exemple, la soirée...
Fist, salsa et sombrero.
Fist, salsa et sombrero.
Aïe! Fist, salsa et sombrero. Bonne Saint-Valentin à tous et n'oubliez pas, la beauté intérieure, ça compte aussi.
Évidemment, tout est authentique. Ce reportage est à voir
lundi 23h sur France 3 Centre Val-de-Loire.
Et surtout, ça ne vous embête pas de faire des programmes à l'avance? Si j'avais envie d'en parler lundi, comment je fais?
Vous n'avez pas le monopole du temps d'avance.
Eva, cela ne vous empêche pas.
Non, on va pas insister.
Il y a plein d'autres attractions. Non, mais allez-y.
Non, on va parler d'amour aussi lundi, vous verrez.
Attendez, je voulais dire que Bertrand, on le retrouve non pas ce week-end, mais lundi.
Oui, c'est
vous
vrai.
Vous serez avec nous lundi à 10h et surtout, et à 7h40, votre chronique La Touche Âme, avec le titre Je pense juste, je fais le lien entre les deux. C'est dans la matinale de Mathieu Béliard.
Oui, en l'occurrence de Sébastien Krebs.
Exactement, Mathieu est en vacances pour une semaine. Eva,
oui.
Plus sérieusement, oui. Que faut-il regarder en cette fin de semaine?
Je sèche mes larmes.
Ouais.
Allons-y.
Des larmes de rire, évidemment.
Oui, évidemment, évidemment.
Quel est le thème de votre zapping?
Ça y est. Ne riez pas, mais c'est une histoire d'eau. Mais d'eau, E-A-U. Voilà, ah. Version poétique sur Canal Plus Family ce soir avec un film d'animation pour les enfants baptisé « Maman pleut des cordes ». Alors c'est l'histoire de Jeanne, elle a 8 ans, c'est une enfant mature et malicieuse et elle ne comprend pas pourquoi sa mère l'envoie vivre temporairement chez sa grand-mère. La mamie, elle pue l'oignon et elle vit, c'est vrai, elle vit dans une
donc,
région...
On reste dans le thème.
Voilà. Elle vit dans... Non, ça c'est pas bien Philippe.
C'est dans votre texte.
Oui, je sais. Et elle vit dans une région où il pleut tout le temps, arrivée de Jeanne et embrassade avec la vieille femme.
Oh, ma Jeannou, que ça me fait plaisir de te voir, ma chérie. Ça faisait tellement longtemps. Oh, quel temps. Oh, ça n'a pas arrêté de pleuvoir cette semaine. Enfin, on choisit pas la météo, hein. C'est sûr, si j'avais une baguette magique, hop, je peux vieux, disparu des nuages.
Attends, mémé.
Et Jeanne, elle va découvrir donc le quotidien si peu ordinaire de sa grand-mère et de Clo-Clo. Clo-Clo, c'est un clochard immense et mystérieux. Et pendant ce temps-là, eh bien, sa maman se fait soigner pour une dépression. C'est un thème très difficile à traiter, notamment quand on s'adresse aux enfants. Or, ce film de Hugo de Faucompré y parvient magistralement, je vous le conseille réellement. Ça dure 25 minutes. Histoire d'eau aussi à Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où 10 hommes âgés de 21 à 71 ans ont décidé de créer une équipe de natation synchronisée. Placé sous les ordres de Dominique, c'est la coach.
1, 2, 3, 5, 6, 7. Non mais, hé, vous êtes en train de digérer, mais ça va pas. C'est 5, 6, 7, 8, 1. Ça ressemble à rien ce que vous faites.
Moi aussi.
Non, ça ressemble à rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
L'équipe, c'est l'équipe de 13h15 le samedi sur France 2 qui a suivi pendant plusieurs semaines en février 2020. La préparation de cette équipe qui ressemble évidemment à celle imaginée par Gilles Lelouch pour la comédie Le Grand Bain. Et dans l'équipe de Montreuil, vous allez retrouver un banquier, c'est le mari de la coach, il y a aussi le fils de la coach, il y a un pharmacien, des étudiants, et puis il y a Vincent. Vincent, c'est le rigolo de service, il est surveillant de piscine. Et à la fin de l'entraînement, vous allez l'entendre, il arrête facilement de rire.
Je ne sais pas pourquoi j'ai signé. Tu es en train de souffrir, tu es au bout de ta vie, tu dois sourire. Non ? C'est rare quand même qu'on puisse faire ça.
T'es au bout de ta vie, là ?
Pour l'instant, non. Mais c'était mes dernières paroles.
Ils sont épuisés. Génial. Il est épuisé, mais il est motivé. La première compétition est pour bientôt. Alors, ça bosse dur. C'est pas parfait, mais on sent quand même les efforts fournis par ces hommes qui répètent tout le temps « Les filles y arrivent, pourquoi pas nous ?» Sauf que, février 2020, la pandémie est passée par là, entre-temps, fini la compète, fini la piscine, fini la rigolade entre copains, avec ce satané confinement. Et vous verrez donc la suite, c'est un excellent sujet à voir samedi. C'est une histoire toute simple, mais qui active les zygomatiques. Ça dure aussi une trentaine de minutes. Et puis, histoire d'eau aussi ce soir sur France 2, avec un artiste qui pourrait repartir de la cérémonie des victoires, avec une récompense, voire deux récompenses.
On ira voir la mer. Voir si la lune est claire.
Julien Doré, nommé à deux reprises cette année, et on va récapituler avec lui d'ailleurs, de l'eau de pluie avec Maman pleut des cordes sur Canal Plus Family ce soir à 20h25, de l'eau chlorée avec Dans le même bain sur France 2 samedi à 13h15, et l'eau de mer de Julien Doré, peut-être honorée ce soir dans les victoires de la musique, à partir de 21h05 sans public. Ça,
merci,
c'est plus triste.
Voilà. Merci beaucoup Eva Rock, Bertrand Chamerois, je ne demande pas une recommandation programme. Aïe, Pépito! Merci Eva, merci Bertrand, bon week-end. Alors, je dois vous dire les choses telles qu'elles sont. Nous devions recevoir Julien Clerc pour son nouvel album Terrien. Et Julien Clerc, on l'a appris pendant l'émission, a eu un empêchement de dernière minute, totalement indépendant de sa volonté. C'est partie remise. À la place, on va retrouver Olivia Ruiz, que nous recevions il y a quelques semaines. Mais d'abord, musique avec le tout nouveau titre de Pink, enregistré avec sa fille Willow.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média.
I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine people laughing, I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
sunshine.
Quelle voix cette petite fille, Cover Me in Sunshine, c'était le nouveau titre de Pink et sa fille Willow sur Europe 1. Dans un instant, Olivia Ruiz, la chanteuse mais également la romancière que nous recevions il y a quelques temps pour son roman qui est devenu un best-seller, La commode au tiroir de couleurs.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Bondel.
En direct, et je vous le disais il y a quelques instants, nous devions recevoir Julien Clerc pour parler de son nouvel album qui sort aujourd'hui. Julien Clerc ne peut venir ce matin, bien malgré lui, on l'a appris pendant l'émission. On va le recevoir, évidemment dans les prochains jours. Et à la place, je vous propose d'écouter Olivia Ruiz. Olivia Ruiz que nous recevions il y a quelques semaines. Mais pour votre premier roman, La commode au tiroir de couleurs, c'est chez Lattès ou J.C. Lattès ou Jean-Claude Lattès, il y a trois façons de le prononcer. C'est quoi, non pas l'histoire de ce roman, mais sa genèse? Comment vous êtes-vous mise à écrire un roman, Olivia Ruiz?
C'est pas franchement mon idée, hein, Philippe. J'ai écrit quelques nouvelles il y a une dizaine d'années sous la direction d'une amie qui était chez Flammarion à l'époque. Elle est retombée sur ses nouvelles il y a un an et demi à peu près. Elle m'a dit La commode au tiroir de couleurs, c'est ton roman. Remets-toi au boulot. C'est une période un petit peu creuse pour moi, donc je me suis dit allons-y, on essaye. Et là, je lui ai fait vivre un enfer. Je bossais 2 mois à fond, puis pendant un mois, je disais laisse tomber, j'ai pas les épaules pour un exercice tel que celui-là. Et elle ne me lâchait pas, elle me harcelait de textos, vas-y ma guerrière, tu peux le faire. Et du coup, je m'y remettais. Et j'ai fait en alternance, comme ça, moment de découragement à rien faire, et moment où, au contraire, j'étais dans mon histoire et bien avec mes personnages qui me réconfortaient beaucoup. Et puis un jour, sans me rendre compte, on avait presque terminé. Cette petite coquine, Olivia de Dieu le veut pour ne pas la nommer, a envoyé le manuscrit aux éditeurs sans me le dire, ouais. Parce que je disais que je ne me sentais pas prête. Et ben, une douzaine d'éditeurs l'ont voulu. Ouais. Donc elle a eu raison de faire un coup de poker pareil.
Et alors tous ceux et toutes celles qui se disent « Quoi ? Encore une chanteuse qui sort un roman ?» Je réponds ceci, je lis le magazine Le Point, qu'on ne peut pas être suspect de complaisance. « Ce livre est un coup d'éclat et un coup de maître, écrit Marine de Tilly, que je ne connais pas. »
Elle est géniale, journaliste, grand reporter, qui écrit des bouquins. Non, pas du tout.
Ah bon, d'accord, non, parce que sinon, dites pas,
Moi, je me renseigne quand même avant de faire des interviews. Vous, on vous connaît depuis toujours, j'ai pas besoin. Mais oui, et j'ai découvert un personnage en me plongeant dans l'histoire de cette jeune femme après qu'elle ait fait ce beau papier.
Donc, coup d'éclat, coup de maître, ça raconte une histoire familiale, ce livre. C'est à la fois une histoire familiale, mais c'est pas votre histoire personnelle. Expliquez.
Trois de mes grands-parents ont immigré pendant la guerre d'Espagne.
On est entre 39 et 36, chassés par le franquisme.
C'est ça. Et puis, ils ont toujours refusé d'en parler. Et moi, grande curieuse, complètement interpellée par le traumatisme qui, selon moi, était tel qu'il leur imposait ce silence, j'ai eu envie de fouiller, j'ai posé beaucoup de questions depuis ma plus tendre enfance et je n'ai eu aucune réponse.
Pour qu'on comprenne le titre, La commode au tiroir de couleurs, c'est une jeune fille qui trouve à la mort de sa grand-mère une commode qu'elle connaissait avec des secrets dedans, mais elle récupère la clé et elle ouvre tiroir après tiroir, elle découvre tous ses souvenirs. Vous n'avez pas changé les noms. Ruiz, c'est pas votre nom de baptême, le nom de votre papa c'est Blanc, et ce qui est drôle c'est que dans le livre, la grand-mère, qui est une petite fille qui s'appelle Rita, change de nom et devient Joséphine Blanc, et ce qui m'a vraiment frappé c'est, je me suis dit mais comment a-t-elle travaillé puisqu'il n'y avait aucun récit de la part de vos grands-parents?
Ah ben un peu de documentaire, il existe vraiment peu de choses et c'est dommage, mais c'était une raison de plus de parler de cet épisode historique, même si je le fais d'une façon distancé. Il s'agit surtout d'amour finalement dans ce livre. Donc voilà, j'ai lu des bouquins, j'ai lu Le magnifique pas pleurer de Lydie Salvert. En fait, il y a presque 15 ans à me nourrir des faits de cette histoire pour pallier justement au manque de dialogue et de transmission de ma propre famille. Donc voilà, ça va des bouquins de Carole Martinez ou de Lydie Salvert jusqu'au documentaire.
Alors là, c'est là ce que je voudrais comprendre, c'est vos grands-parents avaient entre 5 et 11 ans et vous dites, quand je leur demandais de me raconter, soit une des grands-mères fondait en larmes, ou le grand-père devenait totalement mutique. Comment vous l'expliquez, tant est que ça puisse s'expliquer? Pourquoi ce rejet? Pourquoi ce déni?
Alors, je n'ai pas l'explication en ce qui les concerne, mais c'est justement ce que j'avais envie de creuser dans le roman, parce que, Parce que pour est-ce que moi, c'est forcément un traumatisme.
Est-ce que c'est une histoire familiale très douloureuse dans votre famille, ou est-ce que c'est, pardon de ce parallèle, à l'ouverture des camps de concentration, les survivants n'avaient pas les mots pour exprimer ce qu'ils avaient vécu?
Non.
Est-ce que c'est universel ou est-ce que c'est constitutif de votre famille?
Non, c'est universel, puisque ça se retrouve énormément et que depuis 3 mois que le bouquin est sorti, j'arrête pas de recevoir des témoignages très forts là-dessus. Donc non, je crois que c'est culturel chez les Espagnols, cette immense pudeur. Et puis je crois que c'est général à tous ceux qui ont vécu en exil, que les Espagnols.
C'est plus qu'une pudeur, votre grand-père voulait pas en parler, il a même jamais voulu retourner en Espagne.
Ouais,
alors qu'il n'était coupable de rien.
Je crois que quand on a, je le dis dans la commode, un déracinement, c'est comme une amputation ou comme être orphelin de mer. On ne se rend pas compte d'à quel point l'attachement à la terre est important chez les Méditerranéens, plus particulièrement peut-être, mais pas que. Donc, être obligé de quitter son pays, je crois que c'est quelque chose qui a été si douloureux qu'ils ont eu envie de mettre tout ça sous le tapis pour ne pas souffrir en le racontant à nouveau.
Ça s'appelle La commode au tiroir de couleur. Il y a 9 tiroirs que vous racontez, Olivier Ruiz, et un 10e tiroir qu'on va ouvrir. Ça sera avec Hélène Manarino. C'est son portrait inattendu dans quelques instants.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
De retour avec Olivier Ruiz pour son roman La commode au tiroir de couleurs. Je vais y arriver. Elle était venue nous en parler avec passion il y a quelques temps. Et Hélène Manarino, avec passion également, avait dressé son portrait inattendu.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour Olivier Ruiz.
Bonjour.
Je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Poupette, ma Poupette, le surnom que votre papa vous donne depuis que vous êtes toute petite.
Au bout de la 20e seconde, il y a déjà punaise. C'est bien parti.
Et je ne peux pas commencer ce portrait sans évoquer cette relation unique, celle d'un père et sa fille.
Emmenez-moi au bout de la terre.
Emmenez-moi, Olivier Ruiz, cette chanson que votre papa chantait lorsqu'il vous emmenait au collège. Mais lorsqu'il ne se rappelait plus des paroles, il pouvait compter sur vous. À seulement 12 ans, vous les connaissiez par cœur, puisque papa chanteur, quand il répétait ses titres à la guitare, il voyait votre petite main qui dépassait sur son bureau pour lui piquer les textes. Une main que vous aimiez poser sinon sur le cœur de votre mère ou votre grand-mère en précisant à chaque fois « je mets la main au chaud ».
Ouais, mais c'est incroyable.
Olivier Ruiz.
En fait, c'était sous le pull, entre les seins de ma grand-mère, sous son pull, ou dans les poils de mon papy, sur son torse. On faisait la sieste ensemble, et du coup, j'avais un petit cheveu sur la langue, ce qui donnait la main au seau.
Olivier Ruiz, en tout cas, ça chantait à la maison tout le temps. Enfin, surtout vous, entre 2 épisodes de Tom Sawyer, vous chantiez du matin au soir et tous les registres, même à table, à tel point que votre frère n'en pouvait plus. Il vous suppliait d'arrêter, et ça finissait souvent en bagarre.
Mais...
heureusement,
comme mon fils aujourd'hui.
C'est vrai?
Ah oui, oui.
Qui bat qui?
Il a compris que la musique lui piquait un peu sa maman et beaucoup moins les livres. Donc lui, il a tendance à me dire « c'est super maman que tu écrives tes romans à 4 ans et demi ».
Heureusement qu'il y avait votre collection d'éléphants pour vous calmer, les peluches je précise, et votre jeu machine à coudre. Enfin, vous aviez trouvé le moyen de créer une chanson avec le slogan de ce jouet « Coqueta máquina de coser a pilas ».
Ah non, mais elle est trop forte.
Ah oui.
Trop forte. Mais c'est des choses tellement intimes, j'ai aucun souvenir d'avoir raconté ça. Oui, mes parents bossaient beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup de réjouissance. Alors, pour les faire rire, le soir à table, j'aimais bien faire des petites impros.
Et comment, la chanson
sous la main. Je ne me souviens plus vraiment de la mélodie.
Mais c'était les bonnes paroles.
C'était ça.
Avec mon accent espagnol. Un papa que vous suiviez tout le temps, notamment un jour où il était chanteur dans l'émission Sacrée Soirée. Et ce jour-là, Jean-Pierre Foucault recevait votre idole, enfin votre amoureux secret. Oui, grillé. Rock voisine, vous étiez caché à ses pieds lorsqu'il donnait ses interviews, juste pour le contempler. Aujourd'hui, votre idole a changé. Vous vivez presque avec lui, enfin avec sa silhouette en carton que l'on vous a offert pour votre anniversaire.
Ah non, c'était Nick Cave pour mon anniversaire.
Et oui.
C'était pas Rock voisine.
Ah bah oui, Rock voisine,
Et vous avez vu comme c'est bien fait ici, c'est Nick Cave.
Là, c'est Nick Cave. Énorme, pardon.
Cette silhouette qui se trouve aujourd'hui dans votre séjour, au milieu de vos vinyles, bel accueil. Alors Olivier Ruiz, vous avez toujours été émerveillé par ce monde du spectacle, les loges, les miroirs, les chanteuses qui se préparent, même si vous étiez destiné à faire de la radio, puisque vous aviez une émission à l'âge de 8 ans. Vous passiez des chansons du Club Dorothée par exemple, mais il y a eu ensuite votre fascination pour les comédies musicales. fame. Il y avait un côté un peu sportif. Pourtant, vous, sportive, vous ne l'êtes pas du tout, à tel point que lorsque vous avez passé votre bac, votre professeur de PS a noté dans votre bulletin « Je ne peux pas donner de notes à Olivia car elle a assisté à aucun cours ».
Voilà, bravo. Ou presque.
Vous préfériez un peu, il faut le dire, squatter devant le lycée en buvant quelques bières avec toute votre bande d'amis.
Ouais.
Alors vous avez été emmené au commissariat,
cool.
Mais c'était pour vous faire peur, surtout,
oui,
et vous n'avez
sûr.
Pas recommencé. Alors il vous fallait du chant, de la danse, du théâtre. Vous êtes parti étudier à Narbonne, dans un lycée spécialisé, chez votre tante, qui vous donnait souvent des graines avant de partir en cours, car elle était une spécialiste du bio. Narbonne qui reste toujours très important pour vous, plus précisément Narbonne Plage, avec cette envie de ne jamais vous déraciner, même si vous pensez de plus en plus à vous installer à Barcelone. Mais rien ne vaut vos balades dans la garrigue avec votre compagnon et votre fils, vos tablées organisées avec vos 15 amis d'enfance dès que vous êtes dans le sud. Alors attention, vous gérez tout le repas, la mama espagnole, et vous êtes une excellente cuisinière et vous faites très bien le pan con tomate.
C'est vrai, vous êtes une bonne cuisinière ?
Oh bah, faut demander à ceux qui mangent ma cuisine, mais j'aime ça en tout cas. J'adore ça, et puis je me suis régalée aussi de former mon petit garçon au goût. Aujourd'hui, il est pas tant, il reconnaît la coriandre, la fleur d'orange, et il est, voilà, c'est un plaisir la bouffe chez nous. Ouais.
Alors Olivier Ruiz, le goût du challenge en permanence en cuisine, mais pas que, challenge pour retrouver vos clés que vous perdez tout le temps, quand il faut trier vos papiers.
J'ai guéri.
Vous avez guéri, bravo.
Et pour les clés, j'ai guéri il y a une dizaine d'années, je sais pas, thérapie peut-être.
Challenge en soirée lorsque vous faisiez votre traversée de Paris en 206, musique à fond. Challenge dans la jungle équatoriale, vous avez fait de la tyrolienne, elle était toute rouillée et quand vous êtes parti, vous avez lâché un « dis à mes parents que je les aime ». Ou alors...
C'est ça la confiance dans la tyrolienne.
Mais c'est fou, vous avez parlé à ma pote Myriam.
Non, Myriam, elle n'a pas parlé.
Pas, mais je ne connais pas Myriam. Ou alors challenge à Rio lorsque vous avez rejoint votre frère en famille pour Noël. Olivia Ruiz, vous n'oubliez jamais d'où vous venez avec cette envie d'y retourner très souvent. Continuez de nous y emmener puisqu'on vous suit et en plus, nous aussi, on connaît les paroles.
Joli, merci. J'en ai des petits frissons de me rappeler toutes ces choses que j'avais oubliées, très franchement.
Je suis là pour vous rappeler votre vie, n'hésitez pas.
C'est génial, mais oui, je vous passe un coup de fil.
N'hésitez
pour voir
pas, je suis là.
Suite et fin de l'interview, de l'entretien qu'Olivia Ruiz nous avait donné il y a quelques mois.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Culture Média continue évidemment jusqu'à 11h et suite et fin de l'entretien qu'Olivia Ruiz nous avait donné il y a quelques mois, il est question de lecture. En compagnie d'Olivia Ruiz, La Commode au tiroir de couleur, c'est votre premier roman et je l'ai dit, c'est déjà un succès, 100 000 exemplaires vendus et c'est pas terminé. Le livre est conçu en 9 chapitres comme autant de tiroirs. Vous imaginez que c'est votre grand-mère qui a mis à l'intérieur de ses... chaque tiroir des secrets qu'elle n'avait jamais voulu raconter. Alors, cette commode n'existe pas dans la vraie vie ?
Elle existe maintenant. Je l'ai faite fabriquer par deux amis dans le sud qui font des meubles en carton.
Ouais.
Donc, elle n'est pas en chaîne massif, elle est en carton, mais elle existe. Et je l'ai faite fabriquer pour la remplir à mon fils, bien sûr.
Vous avez mis quoi dedans ?
Pour l'instant, juste dans le premier tiroir, la commode avec un petit mot à l'intérieur. Enfin, le roman,
ouais.
Avec un mot à l'intérieur.
Et vous allez mettre 9 secrets, comme dans le roman ?
Est-ce que j'en aurai suffisamment pour remplir toute la commode ? Je ne sais pas s'il s'agit que de secrets. Il s'agit de petits objets qui rappellent un souvenir et qui, du coup, permettent une forme de libération de la parole, un réveil du souvenir.
En parlant de parole, cette année, vous faisiez partie du festival Culturissimo. C'est le festival des centres, des espaces culturels Leclerc. Ça existe depuis 2014. Gros événement prévu dans plein de villes de France, 75, annulé à cause du Covid. Mais ils se sont rattrapés avec des lectures filmées au théâtre du Petit Saint-Martin. Ça s'est appelé Culturissimo chez vous. Il y a eu gros casting, Nicole Garcia, Clotilde Courau, Hippolyte Girardot, Marianne Denis, Couraine, Jacob Gitanri, je ne peux pas citer tout le monde, Jacques Weber, j'en oublie. Et vous, Olivia Ruiz, vous avez lu un extrait de votre roman, le contexte, là c'est la grand-mère de la narratrice qui vient de mourir, elle hérite de la fameuse commode qui l'a tant fait fantasmer quand elle était petite fille, et c'est Olivia Ruiz qui lit son propre livre.
Quand l'énigmatique objet de notre convoitise est arrivé dans la maison de ma grand-mère, j'avais 4 ans. Cet événement est si frais dans ma tête que j'ai l'impression qu'il date d'il y a moins d'une heure. Avec mes cousins, on s'est enfiévrés 1000 fois en tentant de fourrer le nez dans cette commode, attirés comme des aimants à bêtises par l'arc-en-ciel de tiroirs, les petites clés sur chacun d'eux qui suppliaient d'être tournées, le métal doré qui renforçait les angles pour nous les rendre plus inaccessibles encore.
On peut encore le trouver, ce texte, vous avez lu tout le livre ?
Alors non, on va enregistrer le livre audio là en octobre, donc ouais. on pourra le trouver pour les non-lecteurs d'ici, je pense, la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Le Festival Culture Simon, je ne sais pas du tout si c'est encore en ligne, mais moi, sur mes réseaux, j'avais fait des petits bouts de lecture qui doivent toujours y être.
Et la lecture de votre livre, ça sera avec votre voix ou une comédienne ?
Ce sera ma voix, oui, oui.
Olivier Ruiz, surprise, l'émission n'est pas terminée. C'est Hélène Manarino qui a pris la place d'Eva et vous aviez encore quelque chose à dire.
Eh oui, Olivier Ruiz, ce n'est pas terminé. On va parler d'un challenge que vous avez relevé haut la main. C'est votre spectacle Bolbert. Un spectacle qui vous a demandé des heures de répétition à Grenoble, un ballet dansé. Et une personne vous a entraîné, Béatrice. Une grande danseuse. D'ailleurs, si vous refusiez les répétitions, elle vous demandait de faire le grand écart. Béatrice qui est tombée...
Elle se fichait de moi, ouais, surtout. En disant que je pouvais faire un mini écart, mais qu'au-delà de ça, c'était perdu.
Béatrice, qui est tombée gravement malade et que vous n'avez pas revue depuis quelques temps, vous étiez sa showgirl et elle avait envie de vous parler ce matin.
Oh là là.
Ma cracouille, c'est moi. Voilà, je viens te faire un petit coucou. C'est ta malfaitrice, ton ex blonde, qui vient te faire un énorme bisou et te dire combien je suis fière de toi, de t'avoir vue danser, chanter. Maintenant, tu écris, tu nous fais partager ton histoire avec une vérité et une spontanéité que j'ai toujours aimée. Voilà, donc te dire que je serai toujours près de toi, que j'adore ta beauté intégrale, tu sais de qui je parle, que Marseillette, c'est notre petit coin pour nous, où on adore aller écouter ton papy. Sache que tu fais partie intégrale de ma vie, que notre association de malfaitrices est loin de se terminer, que tes élastiques restent tes meilleurs amis, que la sporténine on adore et que je ne me mettrai jamais à manger des chips bio, ça c'est sûr. Je t'aime, je t'embrasse fort, fort, fort. Bravo ma puce.
Mais ça ne va pas de me faire pleurer devant le matin.
Olivier
J'ai eu très
qui
peur
ses larmes.
De perdre mon amie Béa il y a quelques mois. Et maintenant elle va bien et c'était un beau cadeau.
Voilà. Je suis émue aussi de vous voir.
On terminera
ça.
Sur ces toutes petites larmes et sur cet immense sourire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Ruiz. Je rappelle votre roman, La commode au tiroir de couleurs. Merci beaucoup, Hélène Manarino. Olivier Ruiz, qui était notre invitée il y a quelques mois, romancière, mais toujours chanteuse. On va l'entendre justement dans Culture Média. Olivier Ruiz, vous avez reconnu l'intro de La femme chocolat.
Noisette craque, tu les manges.
à la hache, j'ai trop mangé de chocolat.
La femme chocolat, qui d'autre qu'Olivia Ruiz? Dans un instant, notre premier indispensable, Clément Lessat, va nous faire découvrir un jeu vidéo idéal à tester le jour de la Saint-Valentin. Hein? Mais oui, c'est possible.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média. 9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Culture Média continue évidemment jusqu'à 11h en compagnie notamment de Clément Lessat et puis Angèle Châtelier qui va nous rejoindre et beaucoup d'autres surprises. Bonjour Clément.
Bonjour à tous.
Dimanche, c'est donc la Saint-Valentin et vous avez exactement ce qu'il faut pour fêter l'amour, la tendresse et l'intérêt porté à l'autre, un jeu vidéo.
Et ouais, ça peut ouais. Surprendre hein, quand même.
Mais j'en revenais pas. Mais quand on m'a dit il va parler d'un jeu vidéo pour la Saint-Valentin, j'ai dit putain.
Et ben voilà, on va jouer
pardon,
la surprise.
J'ai pas dit putain du tout.
On
j'ai
va jouer
dit,
la surprise. Oh là là. Bon, vous avez rien dit, on a rien entendu. C'est donc un jeu, et oui, et un jeu très original. Ça s'appelle Haven, autrement dit Havre, refuge en anglais. C'est un jeu français pourtant, et ça fait quand même toujours plaisir. C'est fait par le studio The Game Bakers, qui est basé à Montpellier. Le titre Haven est très adapté puisque le jeu raconte l'histoire d'un couple de voyageurs de l'espace, Yu et Kay, qui ont fui leur monde autoritaire pour vivre leur amour qui était interdit chez eux. Et ils trouvent refuge sur une planète vierge.
Une planète qu'il va falloir explorer, je suppose.
Exactement, la planète en question est éclatée en plusieurs petits îlots. En fait, hein, sur le plus gros, il y a notre vaisseau qui sert de base pour préparer des repas, soigner les blessures, préparer des équipements pour les sorties. Et à partir de là, eh bien, on part à l'aventure. Pour ça, Yu et Kay utilisent des bottes du futur qui leur permettent de flotter au-dessus du sol. C'est très très cool. Moi j'adore me déplacer dans ce jeu. J'aimerais bien faire comme ça en vrai d'ailleurs. Quand il y a du verglas dehors, ce serait bien pratique. Certains îlots sont déserts, d'autres abritent des ressources utiles pour réparer le vaisseau. D'autres encore sont habités par des animaux qui parfois nous attaquent. Il faut aussi apprendre à servir du GPS pour se repérer, penser à manger et dormir pour prendre des forces. Bref, c'est un peu vie ma vie d'explorateur.
Et alors le but du jeu, c'est lequel?
Eh bien, c'est juste d'explorer. Hein. Vraiment, il n'y a pas plus que ça. Il y a certes quelques petits objectifs, notamment on va réparer ce fameux vaisseau, mais il n'y a pas de contraintes. On va vraiment au rythme auquel on veut. Dans Haven, on se laisse porter. C'est un jeu qui est très facile. Déjà, les combats sont simples. On ne peut pas mourir, c'est impossible. Ah. C'est pas non plus un grand jeu d'exploration. Tous les îlots se ressemblent. Le monde est un peu toujours le même. Donc, on a vite fait le tour. Le jeu n'est pas très long non plus. Environ une dizaine d'heures. Moi, je l'ai terminé hier soir. Voilà, c'est à peu près 9-10 heures. C'est pas très long. En fait, l'intérêt d'Haven, c'est qu'on incarne un couple. Et ça, c'est très très rare dans le jeu vidéo. D'habitude, on a un héros ou une héroïne. Bien on sûr. Choisit, mais on n'a jamais les deux. Yu et Kay sont inséparables. Ils sont tout le temps ensemble. Et on peut switcher en fait, de l'un à l'autre avec un seul bouton. On appuie sur un bouton et hop, on passe du garçon à la fille ou de la fille au garçon. Et ça change en fait vraiment la façon d'approcher le jeu. Ça marche encore mieux quand ils sont tous les deux, puisqu'en fait, l'idée c'est qu'on crée du lien en fait, entre ces deux personnages. Il faut faire des activités ensemble. Et donc, on part à l'aventure comme ça et on fait des activités. Et c'est exactement ce quotidien que cherchait Aymeric Toa, le cofondateur et directeur créatif du studio The Game Bakers.
C'est Roméo et Juliette dans l'espace. Je voulais vraiment qu'on joue les deux membres du couple, qu'on ne joue pas qu'un seul des deux, ou qu'on choisisse la fille ou le garçon. On a aussi envie de se dire que les gens vont pouvoir y jouer en couple et avoir des moments de couple entre eux pour y jouer. Et c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur de parler de quelque chose que j'aime bien, moi, dans les séries, les films, la littérature, la romance, ça me plaît bien. Mais dans le jeu vidéo, c'était assez pauvre ou alors abordé de façon assez naïve et pas très mature, finalement.
Et ça marche très bien, moi je me suis attaché à ce couple, on est vraiment dans leur intimité, les discussions autour des repas, les chamailleries, les peurs partagées, les plaisanteries. Les dialogues sont en anglais uniquement, mais ça n'empêche pas Yu et Kay d'avoir de vraies personnalités.
On peut même se chamailler dans un jeu vidéo.
Absolument.
Et si je vous suis Clément, c'est d'abord un jeu qui vaut pour ses personnages.
Principalement, oui. Après, Haven a quand même d'autres atouts. Il y a de vrais parties pris artistiques dans ce jeu, les graphismes sont inspirés de l'animation japonaise et c'est très très chouette. Mais c'est surtout la musique que je retiens, moi, une bande son électro génialissime qui est créée spécialement pour Haven par le musicien français Danger. Voilà, je sais pas vous, mais j'aime beaucoup.
J'adore.
Et donc on
j'aime
se laisse bercer comme ça quand on joue. En tout cas, voilà, Haven est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch, voilà, partout. Il est à 25€, ça les vaut largement. C'est vraiment un jeu très sympa et idéal donc pour la Saint-Valentin.
Surtout si on paye chacun sa moitié. Merci beaucoup Clément Lessat. Dans un instant, on va rester en musique, on va évoquer les victoires de la musique justement avec Angèle Châtelier. Mais d'abord, on va entendre de la musique, Julien Clerc, qui nous a fait le cadeau d'un live exceptionnel pour la première fois à la radio. C'est son titre Mon Refuge dans une version live sur Europe 1.
Emmène-moi loin de cette ville que je connais par cœur. Emmène-moi en plein hiver dans le port de Honfleur. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi voir le Japon, ses cerisiers en fleurs. Emmène-moi écouter les sirènes, envoûter les pêcheurs. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et emmène-moi dans des forêts sombres où nous nous perdrons. Emmène-moi voir les pyramides, saluer les pharaons. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Emmène-moi, embrasse-moi à l'ombre des pommiers. Ce sera dimanche tous les jours de l'année. Et tu seras mon refuge où que nous allions. Faut dire qu'avant toi, jamais je n'ai eu de maison. Oui, tu seras mon refuge où que nous allions. Allez, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi.
Mon refuge, c'était un live inédit de Julien Clerc. C'est le premier titre de son dernier album qui est sorti ce matin. Julien Clerc, qui devait être notre invité ce matin, qui a eu un empêchement de dernière minute. Partie remise, il sera bientôt à ce micro, évidemment. On va rester en musique avec vous, Angèle Châtelier. Bonjour.
Bonjour Philippe.
L'actualité du jour, du soir musical, c'est la 36e édition des Victoires de la musique. Qui sont les nommés? Ça va être... comment une cérémonie des victoires en temps de Covid? Vous nous dites tout.
Oui, une cérémonie qui sera dans une scène musicale bien vide. Pas de public pour cette 36e édition qui sera pourtant placée sous le signe des concerts, du live. Comme chaque année, il y aura ces fameux magnétos, vous savez, des flashbacks. Et là, ça risque de nous faire particulièrement bizarre puisqu'on va revoir des festivals de foule. Hein.
Mais
là, alors surtout le programme, c'est bien des prestations en direct, à commencer par celle de Jean-Louis Aubert, président d'honneur, qui ouvrira la cérémonie.
Tu m'as laissé seul dans la...
Les artistes nommés joueront ce soir, on va y revenir, mais avant, on va écouter Romain Vivien, le président des Victoires de la Musique. Il m'a un peu dessiné les contours de ce que ça va donner cette cérémonie sans public. On l'écoute.
On a réhabillé la salle en mettant l'orchestre dans la fosse. Donc du coup, lui, on va beaucoup plus le voir. C'est toujours de la musique live. Ça va être le fil rouge de l'émission pour envoyer ce message d'espoir et puis dire au public qu'ils seront bientôt de retour sur scène et qu'il faudra être là et qu'on compte sur eux pour être là.
Alors du live, oui, il y en aura, à commencer par les artistes révélations qui sont souvent au cœur de la cérémonie. Dans la catégorie révélation féminine se trouve Clou, par exemple, qu'on entend, une jeune artiste bien partie pour être la nouvelle coqueluche de la scène française.
Mais jusqu'ici tout va bien, d'ici on ne...
Aux côtés de Clou dans cette catégorie, Loose and the Yakuza, puis Isolt, deux artistes extrêmement talentueuses mais aussi engagées, des femmes noires de plus en plus représentées dans la musique et dans les médias. Haut les cœurs, surtout pour Isolt elle-même, qui m'a confié qu'avant, elle ne regardait pas trop les cérémonies comme celle des victoires parce qu'elle n'avait aucun modèle dans lequel se reconnaître.
Que ma couleur de peau est politique, mes cheveux sont politiques. Là, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir participer à cette émission et de m'apercevoir qu'en fait, il reste encore du chemin à faire, mais que c'est vraiment pas mal en fait.
Et Angèle, est-ce qu'il y aura qui aura dans les artistes qu'on voit dans les charts depuis longtemps?
Il y en aura évidemment Julien Doré, Camélia Jordana, Grand Corps Malade, Camille Lelouch pour ne citer que, et puis Benjamin Biolay, grand favori.
Comment est ta belle? La mienne est comme ça.
Non. Benjamin Biolay est nommé dans trois catégories, celle de la chanson originale avec celle-ci, Comment est ta peine, mais aussi l'artiste masculin de l'année ou l'album de l'année avec le sien, son dernier, appelé Grand Prix.
Merci beaucoup Angèle Châtelier, c'est donc ce soir les victoires de la musique. Dans quelques instants, si je ne fais pas boulette, on va parler cuisine et gastronomie, c'est Charlotte Langrand qui arrive justement avec des boulettes.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Culture Média continue toujours en compagnie d'Angèle Châtelier. Vous êtes une bonne cuisinière, Angèle.
Pas du tout, mais alors,
ça pouvait pas mieux tomber. Bonjour Charlotte Langrand.
Bonjour.
Charlotte, vous arrivez, vous nous parlez de gastronomie et vous avez redécouvert, en regardant une série culte Friends, vous avez redécouvert le sandwich aux boulettes.
Ouais, moi je sais pas vous, mais je dois être sérieusement en manque de café entre amis et de resto parce que quand je suis retombée sur un épisode de la série Friends, dont les 10 saisons cartonnent sur Netflix, hein, même auprès des jeunes malgré son arrêt il y a 17 ans, ça m'a fait quelque chose parce que c'était bon de retrouver le monde d'avant où presque rien n'est grave, hein, celui de Rachel, Monica, Ross, cette bande d'adolescents colocataires qui échangent leurs appartements et leurs histoires de vie au café d'en bas. Et vous imaginez un café avec des amis dedans? Ça fait plaisir à revoir. Hein. En plus de ça, l'histoire d'amour la plus constante de la série, c'est celle de Joey avec la bouffe.
C'est un amour obsessionnel. Il dit qu'il n'arrive pas à choisir entre ses deux passions, le sexe ou la nourriture.
Food, no sex. Food, sex, food. I don't know. Oh God, I want both. I want girls on bread.
Une femme dans un sandwich, voilà. Joey n'a aucune limite en la matière. Il engloutit des montagnes de plats. Il ne partage jamais la nourriture, c'est lui qui le dit.
Joey doesn't share food.
Voilà. Mais sa passion absolue, celle dont je voulais vous parler, ce sont les sandwichs aux boulettes, sauce marinara, tomate, ail, basilic, qu'il mange même sous la douche. Et en fait, Joey, il était un peu visionnaire finalement, parce que son sandwich aux boulettes, il colle totalement à la situation dans laquelle nous sommes. Les restos sont fermés, le sandwich c'est un petit peu devenu notre nouveau déjeuner. La cuisine de rue s'est étoffée, notamment de boulettes qui réchauffent, qui réconfortent. On a tous une mère, une grand-mère qui nous en faisait quand on était petits. Hein. Donc on les a redécouvertes avec le retour en force de la cuisine levantine. C'est plus cette recette de jour maigre hein, qu'on cuisinait le dimanche soir avec les bas morceaux du frigo. Maintenant, on la voit plutôt comme une recette durable. Elle est de saison, bon marché, anti-caspi, facile à faire, Angèle, et même végétarienne si on veut.
Alors concrètement, les secrets pour réaliser une bonne boulette?
Alors, des bons produits de base, on soigne la liaison des ingrédients pour que ce soit bien lié, on ne néglige pas l'assaisonnement, on abuse des épices, des herbes, on les fait rôtir, mijoter, on les accompagne de sauces, et puis elles sont universelles, donc on fait ou des falafels comme au Moyen-Orient, des arancini italiens, des scotch eggs, etc. Et si on veut les manger comme Joey, on les glisse dans un sandwich, baguette pour faire un banh mi, kebab pour un bun, une pita pour un kebab ou dans un bun pour un simili burger. Écoutez, lancez-vous, j'ai juste envie de vous dire lancez-vous.
Je vais vous proposer
de les goûter chez Miss None ou chez Moco Loco à Paris, chez Roquettes à Lyon et sinon, livre, Les boulettes de nos rêves. Aux éditions First.
Montrez-le à la caméra pendant que je vous salue.
Voilà.
Merci beaucoup Charlotte Langrand. Merci beaucoup Angèle Châtelier. Et n'oubliez pas, soignez bien la liaison des ingrédients. Merci à tous. Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec la présentatrice des journaux de Télématin mais également du JT de 20h de France 2 pendant les vacances. C'est Karine Baste-Régis. Et puis la voix phare de la comédie musicale Les 10 commandements, c'est Daniel Lévy qui sera avec nous pour Grâce à toi, son nouvel album très groovy. Juste après le flash, c'est Anne Romanoff. Ça fait du bien. Je vous dis à lundi. Bon week-end à toutes et tous.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs?
Vous êtes féru de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires?
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.